On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h.
On y va pour les deux plats du jour.
Je peux goûter comme ça?
Oui, 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 bien sûr.
The menu, please.
Oh, tu trouves ça?
Des gestes précis pour une mise en gelée de ces chefs-d'œuvre de la gastronomie française.
Je voudrais celui là-bas.
Le volaille citron confit ?
Exactement.
Le pâté en croûte, appelé aussi pâté croûte pour les puristes. Assemblage subtil de viande de cochon, de canard, de lapin, de pigeon.
Le pâté en croûte, si on veut vraiment faire les choses au mieux de ce qu'on peut, ça demande 4-5 jours de travail. Dans la pâte, il y a plus de 10 ingrédients. Dans la farce, il peut y en avoir une vingtaine.
C'est les pâtissiers autrefois qui le fabriquaient.
Par Saint-Antoine, saint patron des charcutiers. Par Saint-Michel, patron des pâtissiers. Nous vous armons, chevalier du pâté croûte.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster une question existentielle rappelée par Frédéric Mettezo à l'instant. Doit-on dire pâté croûte ou pâté en croûte? Nos deux artisans charcutiers qui sont avec nous aujourd'hui en direct ont tranché. Johan Lastre, bonjour.
Bonjour.
Alors, de quel camp vous êtes?
Bon, moi je dirais pâté en croûte, essayant de parler correctement la langue de Molière.
Après, Johan.
On peut dire pâté croûte, je l'utilise de temps à autre, sur avec qui je discute. Comme dirait l'autre, je retourne ma veste.
C'est
mais
ça.
Pour moi, c'est pas un très gros débat, mais c'est intéressant d'en parler.
Oui, mais je sais que c'est pâté en croûte, puisque c'est le titre de votre livre que vous avez co-signé avec votre compagne Marion Saunier, Pâté en croûte. Recettes et techniques aux éditions Marabout. Votre boutique parisienne de charcutiers traiteurs est devenue un phénomène, on peut le dire. Elle s'appelle Lastre sans apostrophe. C'est pas moi qui précise sans apostrophe, c'est le nom entier de votre boutique, Lastre sans apostrophe, puisque votre patronyme, c'est toutes les lettres attaché et c'est situé rue de Grenelle dans le 7e arrondissement de Paris. Arnaud Nicolas, bonjour.
Bonjour.
Pâté
en croûte.
Pâté en croûte, vous aussi. Oh là 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 là.
Je suis mon collègue.
Pâté en croûte, et oui, pâté en croûte, c'est d'ailleurs cette mention qui est signalée dans le grand livre de la charcuterie, le livre que vous co-signez avec Fabien Perron et Christian Segui, qui sont meilleurs ouvriers de France comme vous, meilleurs ouvriers de France charcuterie. Ça donne un sacré poids à ce livre très important aux éditions Alain Ducasse, photographie Emery Chemin. Alors, il y a le pâté en croûte, il y a d'autres charcuteries dont on aura peut-être le temps de dire un mot. Mais en tout cas, c'est un livre tout à fait impressionnant, un manuel destiné d'ailleurs aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers, mais surtout aux professionnels.
Oui, surtout. Oui.
Surtout. Vous façonnez des pâtés en croûte dorés sur tranche tous les deux, et votre boutique, restaurant, entre autres, c'est Avenue de la Bourdonnais, Paris 7e.
Tout à fait.
Dans les fauteuils des chroniqueurs aujourd'hui, notre libraire gourmande, Déborah Dupont, et notre expert vin, Jérôme Gagnès. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Ça va bien?
Très bien.
Déborah, il est question de croûte.
Il est question de croûte, mais il est aussi question de feuilletage, donc oui. Ça va croûter et feuilleter de mon côté.
En version sucrée. Jérôme.
On va parler d'un duo Berrichon.
Un duo Berrichon, intéressant. Y a déjà des indices visuels sur le plateau dont on va déguster. Votre meilleure adresse à la maison de pâté en croûte, vos tentatives aussi, réussies ou ratées, vos questions, interagissez dans notre émission en direct depuis l'appli de France Inter ou en nous envoyant un mail sur notre adresse onvadéguster@radiofrance.com. Retrouvez les recettes de nos invités, toutes nos infos sur franceinter.fr à la page On va déguster.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, On va déguster.
Juste avant de casser la croûte avec nos deux artisans de très haut niveau, une petite adresse de la semaine, il y a du neuf du côté de Que du Bon, un bistrot à la réputation très installée dans le 19e arrondissement de Paris, en lisière du parc des Buttes Chaumont. Que du Bon, alors il faut imaginer le nom tout attaché, c'est l'un des bastions, ou ce fut l'un des bastions pendant presque 10 ans, de Gilles Bénard. Vous le connaissez sans doute, un agitateur des zincs, un fort en gueule, qui a fait beaucoup à Paris pour la belle cuisine de bistrot, et aussi pour les vins nature. Il y a quelques mois, cédé son affaire à Marc-Antoine Suran, un des compagnons de route de ce restaurant, qui a travaillé auprès de Gilles Bénard pendant plusieurs mois. Et bonne nouvelle, Que du Bon reste scrupuleusement fidèle à son nom. On pourrait même appeler ce restaurant Que du Très Bon. J'y suis allé au déjeuner et je m'y suis rué sur la formule du déjeuner à l'ardoise, ficelé par une femme chef. Laetitia Nourry, ça va intéresser Esther Elpayani, qui recense toutes les femmes chefs au fourneau des restaurants français. Ancienne, notamment de la Tour d'Argent. Ah ah, Johan Lastre, vous la connaissiez pas?
Pas spécialement, je crois pas l'avoir croisée.
Parce que vous êtes un ancien.
Moi, je suis un vieux de la vieille.
Seconde cuisine à la Tour d'Argent, quand même.
Oui, durant 5 ans.
Voilà.
Une magnifique expérience.
Oui, vous êtes d'abord cuisinier avant d'être charcutier, on va en parler. Donc, Laetitia Nourry de la Tour d'Argent, entre autres, et de la Robe et le Palais. Et pour commencer, alors, cette formule, il y avait une salade de betterave, de gros cubes généreux, enveloppés d'une vinaigrette moutardée, rehaussée de lichettes, de clabitou, c'est un fromage de chèvre bourguignon au lait cru, au goût assez affiné. Il y avait ensuite en plat un sauté d'agneau, chair fondante, des chairs presque crémeuse, il y avait notamment du collier, de l'échine, d'autres morceaux, car Laetitia, en cuisine, découpe, figurez-vous, des pièces entières. Ce sauté d'agneau était assaisonné aux épices, le tout accompagné de légumes de saison, carottes, pommes de terre, choux romanesco, et tous les légumes proviennent du carré des producteurs, un espace primeur, au marché de Rungis dédié aux légumes, quasiment tous bio, de producteurs d'Île-de-France. Et en dessert, écoutez bien, vous écoutez Jérôme?
Je suis au taquet là.
Ah oui, oui. Vous avez pas l'air.
Si.
Non, il est très concentré sur ce qui ressemble à une andouillette. En dessert, une île flottante. Imaginez un joli iceberg à la texture de nuages, coiffé d'amandes effilées, flottant dans une crème anglaise nappante, vraiment délicieuse. Et pour cause, tous les produits laitiers de la maison Que du Bon, lait, crème, beurre, proviennent de la ferme de Borgnambuc. C'est à Formoville dans l'Eure. C'est une excellente. Vous la connaissez?
Oui, Emmanuel Borgnambuc, voilà. Connu par les gastronome et cuisinier français, francilien en particulier.
C'est ça. Et il est à Formanville dans l'Eure. Entrée, plat, dessert au déjeuner, combien? Salade de betterave, sauté d'agneau, très bons légumes, île flottante, 17,50€.
Waouh.
Avec de la vraie cuisine, cuisinée avec des produits extra. On ne vient pas que pour la formule déjeuner, mais aussi, Jérôme Gagnaise, pour l'incroyable carte des vins.
Ah oui, très belle carte des vins. Ça, il faut bien reconnaître que dans un restaurant qui propose des menus à des prix aussi raisonnables, c'est quand même très rare d'avoir une telle diversité. Beaucoup de vins, beaucoup de très bons vins, beaucoup de vins de vignerons qu'on aime, dont on aime le travail, à des prix qui sont très doux, parce que les coefficients sont très bas. D'ailleurs, ce serait bien qu'un certain nombre de restaurateurs à y faire un tour là-bas pour apprendre ce que c'est qu'un vrai coefficient un peu bas qui permet aux gens de boire des vins à table. Et ils se plaindront peut-être moins de ne pas vendre de vin dans leur restaurant. Donc là, on a par exemple un imparable Anjou enlèvement demandé de chez Nicolas Rau à 29€.
Ah là là, c'est bon ça.
C'est un pur délice. Il y a notamment aussi un vin qui est moins évident parce que plus structuré, mais qui est très très joli et toujours très bien fait. C'est le Caux Vieille Vigne de Damien Delechenot au domaine La Grange Tiffaine.
Tout à fait.
À 42€. Voilà, un admirable vigneron et une très belle expression du Caux en Loire. C'est deux exemples parmi beaucoup 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 d'autres. Donc précipitez-vous dans cette petite adresse de la rue du Plateau parce que c'est très perché, mais on a l'impression qu'on est un peu à la campagne.
C'est ça.
Isolé, peinard, pour se faire un bon gueuleton, c'est formidable.
Pas très loin des parcs des Buttes-Chaumont. 22 rue du Plateau, très exactement, 19e arrondissement de Paris, Que du Bon, repris par Marc-Antoine Suran avec au fourneau Laetitia Nourry. On suit depuis le début, chers auditeurs, l'opération Vendange Solidaire pour venir en aide aux vignerons qui souffrent, notamment à cause des accidents climatiques. Ils ont été très nombreux ces dernières années. Il y a du nouveau du côté de cette opération de solidarité, Jérôme.
Tout à fait. Aujourd'hui, il y a du nouveau parce qu'il y a une opération, c'est la première fois que c'est fait. Grâce à la générosité. Alors, Vendange Solidaire, très rapidement, il s'agit donc de venir en aide aux vignerons qui ont souffert, plutôt aux jeunes exploitations qui ont moins de 10 ans, qui ont eu, grosso modo, plus de 70% de pertes lors d'un accident climatique. Cette fois-ci, ce sont des vignerons qui ont donné des bouteilles, des très belles bouteilles, des très, 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 très belles bouteilles. Il y a notamment un grand vin 2009 en magnum de chez Éric Rousseau.
Waouh.
Très, très beau cadeau d'Éric Rousseau.
Vous nous rappelez juste
Éric Rousseau, pardon, Gevrey-Chambertin, Bourgogne, très grand vigneron, vins introuvables. Très bon vin du reste, évidemment. Eh bien, ils ont tous donné des bouteilles qui vont être mises aux enchères. Elles auront presque toutes une étiquette d'un original, d'une œuvre originale, d'un dessinateur. Il y a Fred Bernard, il y a Michel Tolmer, il y en a plein d'autres. Certains de ces originaux seront aussi à vendre. Donc, précipitez-vous à la maison Agut, à l'hôtel Arturo Lopez, 12 rue du Centre, à Neuilly-sur-Seine, à partir de 14h15.
Aujourd'hui.
Parce que c'est l'occasion d'acheter des très bons flacons, d'acheter des flacons uniques par leur étiquette, uniques par la qualité des vins qui sont dedans, et ce faisant, vous aider des vignerons en difficulté. Précipitez-vous. Ça s'appelle vendangesolidaire.com, et donc c'est au centre Arturo Lopez, rue du Centre à Neuilly.
Pour venir en aide aux vignerons, car les vignerons souffrent aussi. Laurent Thomas et Stéphane Ronxin réalisent cette émission avec Serge Viguier à la technique, Nadia Chlougui à la préparation et Djoubaka pour la programmation musicale. Ils viennent de l'Orne, en Normandie, et leur deuxième album s'intitule, attention, Not Easy to Cook, c'est Cannibal. Attention, ça va faire mal.
Decided on how to cook it in a pressure cooker in a Bain-Marie. It is a delicate and sweet dish. It is a delicate and sweet dish. No, not easy to cook. The microwave oven will do the trick. I turned the knob to 966. It is a delicate and sweet dish. It is a delicate and sweet dish.
God, this cookery is so sweet, true. Orange bubbles and it looks at me. His half open mouth is trying to speak. I am a delicate and sweet dish. I am a delicate and sweet dish.
No, not easy to cook.
Still hot and steaming, it approaches. My name is Christian, put me in your belly. I am a delicate and sweet dish. I am a delicate and sweet dish.
Gosh, this cookery is so serene, true.
Not easy to cook, y compris le pâté en croûte. Alors eux, pas de doute, ils disent bien pâté croûte. Et si vous osez leur dire pâté en croûte, vous risquez fort de passer à travers la grille du hachoir. Eux, ce sont les organisateurs du championnat du monde de pâté croûte. Il se tient depuis 2009 à Tain-l'Hermitage. Dans la Drôme, on est au sud de Lyon, chez le vigneron Nicolas Michel Chapoutier, oulala.
Vigneron.
Oui.
Enfin, pas seulement.
Oui, pas seulement. Entrepreneur du vin. L'édition 2018 avait lieu lundi dernier, le 3 décembre, en compétition. Des candidats issus de grandes maisons, venus du monde entier, du Japon, des États-Unis, d'Angleterre, du Canada, de Suisse, d'Espagne, qui a remporté le titre de champion du monde cette année. Esther El Payani, notre chroniqueuse reporter, y était pour On va déguster.
S'il vous plaît, il reste encore quelques-uns. Candidat numéro 10, pâté croûte de volaille de Bresse et cadette de Barbarie. Foie gras des Landes, cep, riz de veau et gelé au naturel.
Extrêmement concentré, Luc Dubancher. Il n'aurait pas une bonne tête de gagnant, ce pâté, quand même, Luc.
On n'a pas fini encore, hein. Mais après 10, il a une tête de bon leader. Un pâté croûte qui est équilibré, qui a été bien cuit, qui a une très belle tête, très simple en même temps. Belle gelée, pas trop collée. Donc du coup, c'est aussi beaucoup plus onctueux. Il y a peut-être un petit goût de poule derrière. Je ne sais pas s'il y a été. En tout cas, c'est délicat. Et les chairs sont très tendres. On est plutôt contents.
En voilà un chef professionnel, Nicolas Salduritz, qui photographie scrupuleusement le pâté en croûte avant de le déguster. Je le laisse déguster avant de l'embêter.
On déguste un pâté en croûte avec les yeux. Et après, il y a plusieurs paramètres, effectivement, dans une dégustation de pâté en croûte. Bien sûr, il y a la pâte, il y a la gelée et il y a la farce. Et après, on goûte chaque élément séparément. Ça va nous donner des indications déjà par rapport à l'équilibre. Et après, ce qui est important, c'est de voir les harmonies qui vont se développer ensemble ou pas. Donc, il faut garder une certaine lucidité sur le pâté en croûte qui est trop beau. Après, s'il est beau et en plus, il est bon... Et ben là, je pense qu'on a peut-être le futur gagnant, en tout cas du championnat du monde de pâté en croûte.
J'appelle Pierre Gagnère et Michel Chapoutier pour remettre ce prix. De qui s'agit-il, Michel, s'il vous plaît?
Daniel Gobet.
Daniel Gobet, le numéro 10. Sous bout de traiteur à Thibaud-les-Bains. Bravo, Daniel.
Esterel Payani en vadrouille du côté de Tain-l'Hermitage pour le championnat du monde de pâté croûte. Daniel Gobet, oui, c'est le lauréat 2018, So Good Traiteur à Divonne-les-Bains, on est dans l'Ain. Il remporte le titre de champion du monde de pâté croûte 2018 avec un jury, comme vous l'avez entendu, présidé par Pierre Gagnère. Pâté en croûte de volaille de Bresse, canette de Barbarie, composé de foie gras des Landes, cèpe, riz de veau, gelé au naturel. Championnat du monde de pâté croûte, vous n'y avez jamais participé, Arnaud Nicolas?
Moi, personnellement, non, mais certaines personnes de mon équipe, oui.
Oui, tout à fait. Donc il est incontournable cet événement dans vos carrières?
Ah oui, complètement. C'est devenu un événement en fin d'année, juste avant les fêtes de Noël. C'est devenu un événement incontournable.
Et si on voit l'ampleur médiatique que prend un titre désormais de champion du monde, vous êtes bien placé pour le savoir, Johan Lastre, ça donne toute l'importance à cet événement, cette compétition, puisque vous avez été champion du monde 2012.
Et oui, ça commence à remonter un petit peu, mais ça a carrément changé mes plans de carrière, même si je n'avais pas de plan de carrière, mais je suis cuisinier de formation, j'ai fait quelques concours accompagné par mon chef Laurent Delarbre durant mes passages à droite à gauche dans des belles maisons.
Et là, vous évoquez la Tour d'Argent, hein, Laurent Delarbre.
Voilà, la Tour d'Argent, le Ritz, etc. Et du coup, j'ai fait des concours et je me suis intéressé à celui-ci parce que il intègre énormément de techniques de travail et contrairement à des concours où on a 4 heures, 5 heures ou 6 heures pour faire des plats, là, on l'amène, il est fini. Donc, on peut vraiment pousser les choses et bosser une semaine sur la recette H24 pour essayer d'amener le meilleur de ce qu'on peut faire. Et pour nous, en 2012, accompagné de ma femme Marion Saunier et toute l'équipe de la Tour d'Argent à l'époque, on a eu la chance de soulever le Graal. Donc, et c'est là où tout a basculé.
Dans notre émission du 9 décembre 2012, notre chroniqueuse Elvira Masson a fait, vous vous en souvenez peut-être, goûter votre pâté en croûte champion du monde à un certain Michel Guérard, qui était notre invité à l'époque. 3 étoiles à Eugénie les Mains dans les Landes. Vous vous souvenez de sa réaction?
Ah oui, je me souviens comme si c'était hier, la grande classe.
La grande classe.
Écoutez, c'est fabuleux parce que c'est la grande tradition des grands pâtés en croûte du 19e siècle et même du 18e siècle qui est parfaitement respectée avec bien sûr une note artistique puisque le cuisinier nous a fait une jolie fleur au centre du pâté. Cette fleur est composée de pétales. Dans chaque pétale, il y a une viande différente.
Imaginez le travail.
C'est extraordinaire.
On dirait véritablement un très joli meuble du 16e siècle, un meuble Louis XVI en marqueterie.
Exactement.
C'est
un peu
l'effet que ça fait. Voilà. C'est prodigieux.
Et si on goûtait, Michel?
C'est un grand pâté, c'est une réussite.
Bravo Johan.
Bravo, bravo Johan.
Il vous a touché le compliment du chef 3 étoiles quand même, Johan Lastre?
Pas qu'un peu, et d'avoir été cité dans votre émission aussi, et Monsieur Guérard bien sûr qui est une légende vivante, j'ai encore des frissons. Donc, ça...
Vous nous en rappelez la recette de ce pâté croûte 2012?
Oui, on avait bossé sur la ferme d'antan, on va dire, une ferme qui n'existe quasiment plus, même s'il y a des agriculteurs qui travaillent très très bien, donc une ferme avec plusieurs familles qui vivent sur place, on va dire, et tout l'univers que ça comporte, on fait du vin, on fait des céréales, on a une basse-cour, et on fait le jardin, bien sûr, et on met tout ça dans le pâté, donc... on a essayé avec ma femme. À l'époque, on avait le droit de faire de... Il n'était pas interdit de faire du décorum. Donc, accompagné de Marion, on avait poussé le truc un peu, puisqu'on avait pris 9 mois à réaliser ce pâté. Et on est content du résultat.
Et c'est ce prix qui vous a propulsé sur le devant de la scène. C'est ce prix qui vous a décidé à vous lancer dans une boutique de charcutier traiteur, on l'a dit, l'Astre sans apostrophe, avec votre femme Marion Saunier, qui est très importante. Sa profession, c'est ébéniste, figurez-vous. Et j'ai lu dans des interviews que Marion disait, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'entre le métier de charcutier, le métier d'ébéniste ou de menuisier, ce sont finalement des métiers créatifs et artisanaux où on utilise souvent les mêmes gestes, les mêmes découpes, les mêmes finitions. Est-ce que vous êtes d'accord, Arnaud Nicolas, pour dire que le pâté croûte en particulier, mais également le travail de la charcuterie moderne est devenu un vrai travail de marqueterie, de joaillerie charcutière?
C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Hein. Donc oui, bien sûr. Aujourd'hui, on est en train de, on voit par différents professionnels, que ce soit Johan dans sa boutique ou moi-même, une interprétation de la charcuterie qui est un petit peu différente, mais tout ça dans le même but, c'est promouvoir un métier, promouvoir des produits dans une ambiance un peu plus contemporaine.
Parce que le pâté en croûte, on pourrait dire sans jeu de mots, qui se désencroûte, dans le sens où il a longtemps été considéré comme un peu ringard, un peu plof-plof, un peu cloug, un peu la charcuterie un peu épaisse, un peu roboratif, étouffe chrétien, etc. Qu'est-ce qui a changé dans le pâté en croûte? Votre pâté en croûte, vous en avez un ici. C'est une très jolie tranche avec une croûte fine, une farce très équilibrée, tant visuellement que gustativement. C'est quoi qui a changé?
Ce qui a changé, c'est l'évolution d'un métier, c'est l'arrivée aussi de cuisiniers dans notre profession, une interprétation de la charcuterie qui va être un petit peu différente. Et tant mieux, et c'est ce qui fait que ça évolue. Moi, mon cursus, c'est 10 ans de charcuterie, c'est 5 ans de cuisine, donc on n'est pas, on est assez proche au final avec Johan.
Bien sûr.
50 cuisines et c'est aujourd'hui ma charcuterie, c'est un mix de tout ça quoi. Donc je me suis servi de la cuisine pour promouvoir ma charcuterie et de ma charcuterie pour promouvoir ma cuisine.
Ça c'est intéressant, c'est-à-dire que entre les charcutiers et les cuisiniers, on sent que la frontière est un peu plus perméable. D'ailleurs, le championnat du monde de pâté croûte est organisé par des cuisiniers. Vous-même, Johan Laz, vous êtes un cuisinier avant d'avoir ouvert une boutique charcuterie traiteur. Vous êtes un charcutier de formation, meilleur ouvrier de France, Arnaud Nicolas, mais vous avez ouvert un restaurant. Ça veut dire quoi? Que la cuisine est en train d'influencer dans le bon sens les métiers charcutiers?
Il y a toujours eu des connexions entre tous ces métiers. Des boulangers font des pains cuisinés, des pâtissiers mettent de la fleur de sel et d'autres choses râpées dans leur crémeux, etc. Donc, bien sûr, quand on est un artisan, si on aime ce qu'on fait, on s'intéresse à tout l'univers gastronomique qui nous entoure et on va puiser dans nos connaissances ou nos curiosités, ce qui peut faire évoluer ce qu'on fait au quotidien. Voilà.
Et Déborah Dupont.
Je rajouterais aussi les pâtissiers. Il ne faut pas oublier que la confrérie du pâté croûte adoube à l'épée par les trois saints patrons. Saint Laurent, patron des cuisiniers,
oui.
Saint Antoine, patron des charcutiers, et Saint Michel, patron des pâtissiers.
C'est tout à fait intéressant.
Vous avez d'ailleurs beaucoup de pâtissiers qui proposent de très bons pâtés en croûte. Je pense à Franck Fresson à Metz,
oui.
Meilleur ouvrier de France en pâtisserie, qui a un très bon pâté lorrain. Et un auditeur, Vincent, nous signale le pâté en croûte de la pâtisserie Cordier Moff à Orléans. Donc n'oubliez pas les pâtissiers.
Il faut surtout pas oublier le pâté en croûte à gelée de vin jaune de Hirsinger à Arbois, qui est un véritable morceau de bravoure.
Si on commence à faire l'inventaire du patrimoine charcutier, notamment du pâté en croûte,
j'ai la chair de poule rien qu'en en parlant.
Il y a le pâté de Houdan, il y a des spécialités dans toutes les régions de France, c'est ça qui est beau d'ailleurs. Il y a un truc auquel on ne peut pas résister, vous y avez cédé, c'est le phénomène de l'oreiller de la Belle Aurore. Alors là, on parle d'un truc monumental, baroque, gargantuesque. C'est une tranche qui fait à peu près 25 cm de large.
Oui, bon là, après, ça a été interprété et réinterprété de dizaines d'années après dizaines d'années, parce que initialement ça fait 20 cm sur 20, c'est carré, il y a de la moelle de bœuf à manger froide, tout n'était pas calé comme aujourd'hui et chacun interprète comme il le veut. Nous on le fait, on va dire, à la lyonnaise, comme la maison Renon,
car c'est l'origine, hein, et l'Ain et la région du
voilà,
Bugey.
N'a jamais cessé de le faire, et aujourd'hui qui dit pâté croûte dit belle pièce, voilà,
c'est ça.
Qui dit oreiller dit belle pièce. Donc nous on
combien de variétés de viande?
Mais aujourd'hui, là, nous, on a une dizaine de variétés de viande.
Et ce serait donc une légende vivante. On nous raconte que l'oreiller de la Belle Aurore fut un message d'amour adressé par le cuisinier de Bria Savarin à la mère de ce dernier, Claudine Aurore Récamier, pour lui faire comprendre qu'il aurait bien partagé un coin d'oreiller avec elle. Et bon, c'est ces jolies légendes gastronomiques comme on les aime. Et c'est effectivement une pièce à la croisée de l'époque de la chasse et de la truffe, puisqu'il y a, je crois, une 17 ou 18 selon les recettes, variétés de viande différentes avec de la truffe.
Voilà, c'est là où les produits de saison se croisent. Hein. Mm-hmm. La truffe va commencer à être dans sa pleine maturité d'ici quelques jours. Les gibiers, on est dedans depuis quelques temps. Bon, à l'époque, je pense pas que la chasse était codifiée comme elle l'est aujourd'hui en France. Donc, on pouvait chasser du gibier peut-être sur d'autres périodes. Mais voilà, donc, nous, on n'était pas spécialement à la boutique. On n'était pas spécialement prêt à le faire, et puis à force de nous demander,
vous avez cédé à la pression des gourmets parisiens.
Et chez nous, il s'appelle l'oreiller de la Belle Marion, parce que ma femme s'appelle Marion.
Oh, que c'est mignon, voilà. Ça, il faut partager son oreiller tous les soirs.
J'espère bien.
Arnaud Nicolas, un petit détail, une chose qui a changé dans la charcuterie moderne, vous êtes modeste, vous n'en parlez pas, et pourtant ça change la donne. La charcuterie a très longtemps été soupçonnée de contenir ce qu'on appelle des sels nitrités, qui sont des conservateurs, soupçonnés d'ailleurs d'être cancérogènes. Oui. Vous, plus un seul gramme de sel nitrité dans vos pâtés croûtes et dans vos...
Dans toute notre charcuterie. Donc on a pris position, c'est vrai. C'est pas depuis si longtemps que ça, parce qu'en fait c'est vraiment arrivé quand on a fait ce livre. L'idée c'était de faire un livre et de faire voir qu'on était capable de faire de la charcuterie aujourd'hui sans sel nitrité. À savoir que moi, quand j'ai commencé mon apprentissage il y a 20 ans, le sel nitrité, c'était comme le sucre. On se posait pas de questions, on en mettait, c'était normal.
Dans des proportions, c'était quoi, 20 grammes par kilo ?
20 grammes par kilo, donc voilà, c'est pas rien.
Et c'est pas anodin.
Voilà. Aujourd'hui, au fur et à mesure, moi, de ma carrière, c'est quelque chose que j'ai retiré au fur et à mesure pour ne plus en mettre du tout aujourd'hui. Le sel nitrité, c'est un sel qui est composé de 99,6% de sel et 0,4% de nitrite.
Soit, mais le principe de ne plus en mettre du tout. Le sel nitrité, on l'utilise notamment pour garder les chairs roses.
Tout à fait.
On en met notamment dans le jambon pour qu'ils ne deviennent pas gris à l'oxydation. Donc, pour qu'ils restent roses. Mais vous faites comment alors? Parce que vos clients, ils sont très beaux. Regardez, là, vous en avez coupé. On va d'ailleurs le goûter. Qui dégaine son couteau?
J'ai un pâté en croûte de volaille foie gras. Bon, c'est que de la volaille, donc déjà, oui. On se pose pas la question à savoir si... parce que c'est vrai que c'est très spécifique à la chair de cochon, quand même. Mm-hmm. Et ensuite, on utilise des techniques de cuisson. Comme là, j'ai une terrine de jarret, foie gras et truffe. Bon, le jarret, il est cuit sous vide. Le fait de le cuire sous vide, ça permet de garder la couleur. Et on n'est pas obligé de rajouter le sel nitrité.
Incroyable. Voilà. Ça y est, c'est Jérôme Gagné qui s'occupe de la découpe. Sel nitrité chez New Atlas, mais en quantité infime, vous avez vraiment, vraiment réduit les proportions.
Oui, bien sûr. Bon, après, on a mis un petit peu. Des vignerons mettent du sulfite, c'est en train de changer. Les charcutiers mettent du nitrité, c'est en train de changer aussi. En pâtisserie, on met des colorants, c'est en train de changer aussi. Voilà, nous, on en est à. Il y a presque plus de produits qui en contiennent, mais on en a toujours et on l'assume. Et on est en cours, bien sûr, de. En changeant de fusil d'épaule, comme une majorité d'artisans français qui veulent bien faire leur travail, on essaie d'améliorer les techniques et les façons de faire quotidiennement.
On déguste tout ça en ce moment. C'est Déborah Dupont qui prend le relais de Jérôme pour découper les magnifiques pâtés en croûte dorés sur tranche que vous nous avez apportés. Chers amis, attention, chronique vin.
On va déguster sur France Inter.
Non mais il est incroyable, il coupe du pâté, il coupe 6 mètres de pâté en croûte à la minute, il revient à son siège, sur son fauteuil pour déboucher ce qui ressemble bien à un vin blanc, rouge.
On a du blanc dans nos verres, on a un rouge qui va suivre, je vous ai parlé de Duo Berrichon tout à l'heure.
Goûtez
ce blanc. On vous laisse goûter ce blanc. C'est un blanc qui accompagne admirablement une andouillette.
C'est salivant,
que j'adore. Je vous parle très rapidement de cette andouillette. Elle vient de la maison Chevreau qui est à Mentouratel. C'est juste au-dessus du village de Bué. C'est au-dessus de Sancerre. C'est dans le Sancerrois, en plein cœur du vignoble. C'est une maison artisanale qui fait cette andouillette depuis 1928. Cette maison a été créée en 1928. Ce sont d'authentiques artisans charcutiers qui font leur charcuterie eux-mêmes. C'est relativement rare encore, malheureusement, pour être remarqué. est signalée.
Donc, vous voilà. Nous l'avez apportée, elle est bonne froide aussi.
Elle est bonne froide. Elle est, c'est vrai que moi, je les préfère chaudes parce qu'elles sont plus déliées, elle est plus intéressante. Oui. J'aime particulièrement dans cette andouillette l'assaisonnement que je trouve très juste. Elle est vive, elle est bien. Et alors, elle est formidable avec ce vin blanc. On boit là des blancs de Sancerre, donc, d'un domaine qui s'appelle le domaine François Crochet. À Buée. Oui. Alors à Buée, quand vous tapez dans un buisson, il y a une quinzaine de crochets qui tombent. Donc il ne faut pas se tromper sur le prénom. Tous ne sont pas au même niveau. En l'espèce, François, domaine qui fait une grosse dizaine d'hectares. À Buée, à Marcigoué précisément, parce que Buée est une grande métropole, donc il y a des quartiers dans Buée et il y a le quartier de Marcigoué. Ce que nous goûtons là, c'est donc un Sancerre, un pur Sauvignon. 2017. En gros, c'est l'assemblage de terres argilo-calcaires, enfin argileuses, et des terres calcaires avec un petit peu de silex, pour avoir un Sancerre qui est droit, tendu, salin. La minéralité de ces sols calcaires, elle s'exprime pleinement dans ce vin, avec toutefois un petit peu de chair, un petit peu de gras, parce que le millésime 2017 a permis aussi ça. Et donc le résultat, c'est un vin qui est salivant, qui est désaltérant, qui a de la complexité aromatique. C'est une espèce de couteau suisse de la table, parce qu'on peut le servir avec plein de choses différentes, notamment avec cette andouillette, mais aussi avec, je pense, le pâté croûte de volaille d'Arnaud. Ouais. Ça ira très bien.
Qui va y passer complètement.
Qui va y passer complètement. Et donc, voilà un domaine qui est en bio, qui travaille bien, et qui est et qui fait vraiment des très jolis vins. Il y a un rouge qu'on va goûter tout à l'heure, qui est le Pinot Noir, le Sancerre, mais rouge, donc Pinot Noir. Les Sancerrois ont une vraie carte à jouer aujourd'hui face à des Bourguignons qui ont pété un cap sur les prix. On trouve à Sancerre des très jolis pinots noirs sur calcaire, sur argilo-calcaire, sur des terres marneuses, un petit peu comme en Bourgogne, à des prix qui sont nettement plus doux et des qualités qui ne sont pas forcément nettement moins bonnes. Donc c'est quand même intéressant d'aller faire un tour à Sancerre, à Amène-tout Salon aussi, dans ces coins-là. Le rouge de François Crochet, c'est calcaire et argile aussi. C'est un rouge que vous allez goûter tout à l'heure sur le caractère acidulé d'un pinot fin, élégant, avec une extraction qui est très mesurée. Donc on n'a pas une espèce de mastanique un peu dérangeante. On a un vin qui a de la persistance, qui a une belle acidité. Ça accompagne aussi bien une viande rouge qu'un poisson. Voilà des très jolis vins, un travail que j'apprécie parce que le travail est propre, le travail est soigné en cave et ça fait des vins qui sont complexes et qui font honneur à cette appellation. Quand je vous aurais dit que le Sancerre blanc est à 14,50 € au domaine, que le Sancerre rouge est à 18,50 € au domaine, parce que les rendements sont nettement plus faibles sur les rouges notamment, c'est pour ça que c'est un peu plus cher, et que on trouve les vins de François Crochet au domaine et dans plein de cavistes en France et à Paris, eh bien précipitez-vous parce que c'est un admirable compagnon pour vos repas de fête, notamment.
François Crochet, c'est extraordinaire, François Crochet. Blanc.
Ça va super bien, là. J'ai en bouche un pâté de Arnaud, je tombe sur un bout de foie gras avec ça, c'est topissime, c'est vrai que pour les fêtes, ça, les connexions sont là.
Johanna, je vous propose une chose, vous avez apporté un peu chacun votre pâté signature dont on va parler dans un instant. On débouche le Sancerre de François Crochet rouge pour voir comment ça fonctionne dans ces tonalités acidulées avec vos deux pâtés croûte, pâté en croûte qu'on pourrait appeler signature. Ça vous va, pâté croûte signature?
C'est parfait. On peut y aller.
Johan Lastre et Arnaud Nicolas. Juste après, Nuit Fantôme, The Limi Nanas. Faut pas être dyslexique.
Certaines heures de la nuit, je fus le rêve prémonitoire de ta silhouette qui s'enfuit au volant d'une Jaguar noire. J'ai beau partir à ta poursuite, tu joues la fille de l'air. À chaque fois tu t'éclipses, flottant dans les vapeurs d'éther. We'll be right back.
histoire. De ta silhouette qui s'enfuit au volant d'une Jaguar noire. J'ai beau partir à ta poursuite, tu joues la fuite de l'air. À chaque fois tu t'éclipses, flottant dans les vapeurs d'éther. Autour de nous, à l'infini, je sens vibrer l'énergie noire, des étoiles et des galaxies, du futur et de son miroir. Mais moi, tel un vieux pharaon, je pèse le pour et le contre. Car lorsque tu franchis le pont, les fantômes viennent à ta rencontre.
Le pâté en croûte à l'honneur sur les ondes de France Inter, il est 11h39 à l'horloge de notre studio. Nous sommes en compagnie en ce dimanche en direct de Johan Lastre. Lastre sans apostrophe, auteur d'un très très beau livre. On l'a pas dit assez, mais Pâté en croûte, recettes et techniques aux éditions Marabout. C'est un manuel superbe visuellement, d'un format tout à fait original et très décomplexant pour ceux qui seraient un peu intimidés par le pâté en croûte à la maison. Vous confirmez, notre libraire gourmande Déborah Dupont.
Oui, moi je me suis lancée. C'est-à-dire, j'avais jamais osé avant, ça ne m'était même pas venu à l'esprit de faire un pâté en croûte à la maison. Et en fait, là, j'ai suivi les explications. Alors, prévoyez 2 jours et demi, 3 jours, hein, pour faire un pâté en croûte, parce que c'est long, mais techniquement, enfin, c'est clairement faisable à la maison, suivant les explications, en étant méthodique, avec un petit peu de matériel, il faut quand même le moule, ça aide.
Bien sûr, de la pâte jusqu'au moule, la cuisson, le montage du pâté en croûte, tout est détaillé avec des
la
photos.
La gelée aussi.
Qui sont non seulement superbes, mais en plus tout à fait pédagogiques. Pâté en croûte, recettes et techniques aux éditions Marabout. Ça, je peux vous assurer que ça va être un sacré succès sous les sapins de Noël. Et puis, il y a le grand livre de la charcuterie. Alors, c'est Arnaud Nicolas qui s'y colle avec ses compagnons meilleurs ouvriers de France, Fabien Perron, Christian Segui. Là, on est dans un manuel à tendance professionnelle, mais également à destination d'un public averti.
Tout à fait, oui. Il y a des recettes qu'on peut reprendre assez facilement, entre guillemets. Comme disait Déborah, c'est vrai que la charcuterie, ça demande quand même un temps de préparation, de mise au sel et un petit peu de matériel aussi. Donc il y a des terrines qui sont faisables, on peut faire des saucisses si on est vraiment un petit peu... on peut tenter. Le pâté en croûte, oui, bien sûr, mais faut un peu de temps quand même.
Vous nous avez apporté d'ailleurs un pâté grand-mère.
Exactement.
Alors on va pas rentrer dans le détail de la recette, mais en tout cas elle figure, puisque Arnaud Nicolas nous l'a offerte sur franceinter.fr à la page on va déguster. C'est un pâté, vous en définissez la composition?
C'est vraiment un grand classique de la charcuterie, c'est de la viande de cochon, des foies de volaille principalement. Un peu d'œuf, du lait, un peu de mie de pain à l'intérieur. Et la particularité de cette terrine, c'est qu'elle est recouverte sur le dessus avec un petit peu de poivre mignonnette. Donc ce poivre concassé qui va apporter un petit peu de longueur en bouche. Donc on est vraiment dans la terrine rustique.
C'est ça.
Vraiment un produit signature qui se vend très bien, qui est un incontournable chez moi.
Et qui est absolument superbe. Ce qui se vend aussi très bien, puisqu'on vous a promis, chers auditeurs, une battle de pâté en croûte entre... Johan Lastre et Arnaud Nicolas, le pâté en croûte fermier de Johan Lastre contre, versus le pâté, attention, PCV, comme
pâté en croûte volaille.
Pâté en croûte tout volaille de Arnaud Nicolas. Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est deux écoles totalement différentes. C'est Jérôme Gagnès qui a la bouche pleine, mais qui fait quand même l'arbitre, puisqu'il doit les départager notamment à l'appui d'un Sancerre rouge de François Crochet. Oui. On peut dire déjà que votre pâté en croûte PCV, Arnaud Nicolas, a une forme un peu particulière. Il est pas du tout, c'est pas du tout le coffre-fort habituel, un peu haut. Il est au contraire assez aplati. On se rend compte que la croûte est extrêmement fine.
Tout à fait.
Et il n'y a pas de gelée.
Voilà, donc là, un vrai parti pris, quoi. Donc, je me suis fait un petit peu taper sur les doigts au début, mais l'idée, c'est venu tout simplement de cette idée de revoir un petit peu la charcuterie. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on peut faire pour casser un petit peu les codes? Eh ben, on a utilisé tout simplement un cadre de pâtissier dans lequel ils font leurs gâteaux, les opéras, les choses comme ça. Et je m'en suis servi, en fait, j'ai mis ma pâte dedans. Et c'est vrai que la charcuterie, 95% du temps, on utilise de la viande de cochon. Et là, je me suis dit également, on va mettre que de la volaille. Donc j'ai assemblé de la volaille avec du foie gras. Mmh. La petite astuce de ce produit, pourquoi il ne contient pas de gelée? Tout simplement parce que les cuissons sont dissociées. C'est-à-dire qu'on on fonce la pâte dans le cadre, on cuit cette pâte avec des billes de charge, donc ce qu'on appelle une cuisson à blanc. Mmh. Ensuite, on retire ces billes de charge, on met donc nos cubes de volaille avec le foie gras qui ont été mélangés en amont. On le met à l'intérieur, on recouvre de pâte, wow. Et là, on recuit. Et on arrête en fait la cuisson à ce qu'on appelle la juste cuisson, qui nous permet en fait de ne pas avoir de viande qui se rétracte, et au final, pas besoin de geler.
Quel travail d'orfèvre. Voilà.
Donc wow. Certains vous diront que...
Il y a un peu de pistache aussi pour le croquant.
Pas dans celui-ci, ah c'est, non, dans l'autre, c'est dans l'autre, le caille.
Ouais. Non, parce que le tout volaille a une rondeur, je vous demandais, alors évidemment il y a la texture du foie, mais je vous demandais si la rondeur n'était pas apportée par un alcool que vous utilisez dans la marinade.
Il y a un petit peu de Porto pour aromatiser les viandes, après on est vraiment juste sur le produit. Et quand on parle, moi, de charcuterie cuisinée, parce que c'est un petit peu mon mot d'ordre en ce moment... à l'intérieur, de ce pâté en croûte, je mets un jus de viande. Mm-hmm. Donc c'est vraiment la technique de cuisinier. Donc voilà. Donc c'est, on essaye d'aller vraiment au bout du produit, c'est-à-dire que on met juste du sel, du poivre, un mm-hmm. tout petit peu d'épices, un peu de Porto, un jus de viande qui va booster le goût encore de la volaille. Et puis voilà.
Jérôme.
Le jus de viande, il est bien présent.
Hein. Non mais c'est beaucoup ça qui est intéressant. Beaucoup de sapidité en bouche, en effet.
Beaucoup. C'est-à-dire que le pâté en croûte de d'Arnaud, il est puissant en termes de saveur, oui. Il est puissant en termes de viande. Je pense que ce jus de viande n'est pas étranger à cette puissance. Le pâté en croûte de Johan, j'allais dire il est plus fin. Il est moins puissant, mais il a un moelleux un peu différent. Il y a de la gelée, il y a une texture de volaille et un arôme de volaille qui est très fin, je trouve, dans le pâté en croûte de Johan.
Vous êtes en train de dire que tout le monde a gagné, Jérôme Guénès.
Je suis en train de dire que ce sont pas du tout les mêmes pâtés et qu'on les mange pas au même moment et avec les mêmes vins.
C'est Déborah
tout.
Dupont.
Quelque chose aussi qui est caractéristique pour moi dans les deux cas, c'est qu'on a affaire à des gros morceaux de viande, c'est-à-dire qu'on imagine souvent les pâtés, les terrines, comme étant quelque chose de haché, avec peu de mâche et puis des farces assez peliées. Là, on a vraiment de la viande, en fait. C'est ça ce qui est impressionnant.
Vous êtes d'accord,
Johan? Vous mettez des morceaux entiers, en fait.
Précisons d'abord, Johan, que celui qu'on goûte, c'est un peu votre pâté classique. Ouais. C'est le pâté en croûte classique fermier.
Fermier, cochon, volaille, pistache. Cochon, volaille, pistache. Une pâte beurrée, tout simplement. Mais quand on utilise des beaux produits, on n'a pas besoin de les mixer trop fin pour les cacher. Donc là, on profite de mettre nos beaux produits en valeur. Donc, tout simplement, comme le dit Arnaud, c'est voilà, on va pas chercher plus loin que ce qui a été fait par nos anciens dans la simplicité. Et après, bien sûr, on peut amener des techniques modernes pour que le résultat soit là, quoi.
On arrive enfin à la problématique fatidique qui, je pense, rend nos lecteurs assez impatients derrière leur poste de radio. Pâté en croûte à la maison, réaliste ou pas?
C'est faisable, il y a des gens qui font des religieuses à la maison, des Saintes Honorées.
C'est-à-dire vous comparez le niveau technique à peu près de ce niveau-là?
Non, ou des recettes qui prennent 3 jours en cuisson. Nous, depuis qu'on a sorti le livre, on a peut-être une quinzaine de personnes qui nous ont fait des feedbacks déjà en disant, des retours, pardon.
Sur les réseaux sociaux?
Oui, voilà, qui nous envoient des photos et qui disent, ils font un selfie et ils disent, oh, regardez, j'ai réussi à faire votre pâté, je suis content.
Et ils sont tous pourris ou ils sont réussis en photo?
Il y a des choses plus ou moins finies, mais le résultat est là pour une première. Moi, la première fois que j'ai fait un pâté en croûte, il n'était pas joli. Hein. Ouais.
Il faut quand même dire que c'est un travail minutieux, un travail de précision et un travail de patience. Plusieurs jours à l'avance, vous en savez quelque chose, Déborah, vous qui en faites à la maison?
Tout à fait. Et Micheline, une auditrice, nous demande une technique anti-fuite, c'est-à-dire qu'elle a systématiquement, quand elle coule la gelée, des fuites. Donc ça, c'est effectivement la question du fonçage de la pâte.
Exactement.
Ça, c'est une technique anti-fuite, comment vous dire?
Non, c'est pas... J'ai pas relevé, François, c'est vous qui relevez.
C'est Stéphane Roxin, notre réalisateur, qui me parle au casque, il a des idées lui. Non, la gelée, parce que précisons quand même qu'un pâté en croûte est enfermé dans une croûte qu'on peut considérer comme une pâte au beurre, un peu genre pâte brisée.
Pâte au beurre ou pâte au saindoux, attention, moi je suis pas contre, mais moi j'en fais pas. Mais
puisque le saindoux était la graisse traditionnelle animale utilisée par les charcutiers qui la recyclaient en fait dans le pâté en croûte.
Bien sûr, faut pas gâcher, bien sûr, ça tient un conservateur, etc.
Donc il y a une croûte, il y a une farce, mais il y a également effectivement une gelée.
Une gelée ou même un exsudat à la cuisson, quand on vient à pousser des cuisson un peu plus importante que peut-être Arnaud ne fait dans son pâté, comme un rôti, comme un steak, le jus il sort et ce jus-là peut provoquer la fuite. Et si votre zone de collage, c'est-à-dire quand vos deux morceaux de pâte sur les angles ou sur les chapeaux ou sur les couvercles ne sont pas bien collés, c'est-à-dire c'est là où la pression s'exerce et la fuite arrive.
Et d'expérience, je conseille vraiment à nos auditeurs de mettre en fait leur moule à pâté non pas sur la grille, mais sur une lèche-frite ou de mettre la lèche-frite en dessous, parce que ça évite que le beurre coule, tombe sur le fond du four, fasse une fumée noire et âcre, déclenche l'alarme incendie. Enfin, j'ai vécu, qu'on soit bien clair.
Parce que avant la cuisson du pâté en croûte, alors encore une fois, on ne peut pas détailler la recette, mais il y a toutefois le processus très précis sur franceinter.fr à la page « On va déguster ». Globalement, faut s'y prendre à l'avance. Pour quelle raison? Parce que d'abord, faut faire reposer la pâte. Et il y a également cette viande qui, en principe, subit un après, une marinade.
Bien sûr, on marine les viandes. Alors, j'ai jamais essayé d'en faire un direct, mais si on veut le faire en maîtrisant les choses, on pourrait très bien condenser le tout. Mais faut prendre le temps. La cuisine, il faut de la patience. Faut respecter les produits. Ça sert à rien d'aller plus vite que la musique. Donc là, oui, on fait mariner les viandes. Et ce bouillon, qui devient la gelée, c'est bien de prendre le temps. Tente de le faire correctement aussi. Si vous avez un pot-au-feu la semaine d'avant ou une poule au pont la semaine d'avant, vous en gardez 2 litres. S'il faut rectifier avec un pied de veau à la cuisson, initialement, vous le mettez comme ça.
Ça, ça va être votre gelée.
Ben voilà, comme ça, vous n'avez plus que le jour de la fabrication à faire bouillir un cours, à assaisonner et on intègre la gelée après cuisson.
Parfois, on booste un bouillon de pot-au-feu ou un bouillon de coque de poule au pot avec un peu quelques feuilles de gélatine quand même.
Ah oui, ben oui. Si on veut le résultat final, bien sûr que le pied de veau, c'est dans les manuels.
C'est un gélifiant naturel.
Voilà.
Enfin, naturel, c'est naturel aussi la gélatine, mais.
Bien sûr, c'est issu de l'animal et c'est ce qu'on utilise aussi quotidiennement, faut pas rêver. Hein.
Et en général, cette gélatine, lorsque l'on a foncé la pâte dans le moule, quel moule d'ailleurs? On dit qu'il y a un moule particulier pour les pâtés en croûte, le moule de compétition.
C'est un moule à charnière en 3 parties avec une base et 2 côtés.
Qui se déplie.
Voilà, qui s'ouvre en trois morceaux. Et c'est vraiment celui-ci qui permet au gras de s'extraire durant la cuisson et éventuellement à la vapeur. Et si on a une petite fuite au jus, ce qui peut éviter, hormis de mettre le feu au four, mais qui peut éviter de détremper la croûte à la cuisson.
Une pâte au beurre que l'on a, vous dans votre cas c'est du beurre, que l'on abaisse dans un moule spécial, mais on peut aussi le faire dans un moule à cake si on a envie. Ensuite, il y a effectivement toute une farce qui demande un certain après. Des découpes hachées grossièrement, globalement. On n'a pas besoin forcément de grilles de hachoir.
Bah, si on met que des cuisses de poulet et des morceaux hyper nerveux, ils vont mieux hacher. Mais on utilise des beaux morceaux, il n'y a pas besoin. Mais même avec un couteau, hein. Que le couteau. Hein. Je sais pas, Arnaud, ce que t'en penses.
Ah ben moi, mon pâté en croûte volaille, tout est taillé au couteau. Ouais. Donc là, c'est un petit peu plus technique quand même, parce que après, ça demande une certaine maîtrise.
De la découpe.
Oui, de la découpe et surtout de la liaison. Mais on peut aussi demander à notre charcutier à notre boucher une base de chair à saucisse à laquelle on va rajouter des cubes de volaille, des champignons. Enfin, on peut le faire assez facilement en se faisant un petit peu aider.
Ouais, c'est ça. Simplement. Il y a 2 dernières étapes et on passe à Déborah. Il y a évidemment la cuisson. De façon assez surprenante, la cuisson est à four très chaud.
Moi, je préconise d'exercer une cuisson forte au départ. Hein. Après, on descend en palier, on baissera la température plus tard. Mais au départ, il vaut mieux envoyer du très chaud, 220, 230. Ça dépend, bien sûr, votre four. Je connais pas votre four, ce qu'on veut, c'est que ce soit croustillant la pâte, sinon ça sert à rien de faire un pâté, il vaut mieux faire une terrine si c'est pour que ce soit mou à la fin, donc c'est les cuissons à 150, on évite.
C'est ça.
Mais voilà, on va chercher la croustillance, la réaction de Maillard pour que le beurre cuise bien la pâte.
Et ensuite, comme on a prévu des cheminées, on coule la gelée chaude, qui est très liquide, pour qu'elle vienne vraiment napper tout l'intérieur et la farce, et on laisse refroidir.
Voilà, gelée chaude sur pâté chaud, c'est important, et le lendemain, vous verrez, quand vous aurez passé votre nuit au frigo, il faudra encore rajouter de la gelée, parce que la pâte et les viandes pompent cette gelée, et on rajoutera gelée chaude sur pâté froid.
Faites vos débuts en pâté en croûte à la maison, envoyez-nous vos photos, on les regardera avec attention, on répercutera ça auprès de nos auditeurs. En tout cas, ça vaut le coup de se lancer dans un beau pâté en croûte à la maison, du pâté en croûte salé, on passe à la croûte sucrée.
On va déguster.
Déborah.
Alors moi j'ai décidé en fait de modifier un peu la devise de la confrérie du pâté croûte qui est « On y soit celui qui sans pâté croûte prétend servir une table royale » par « On y soit celui qui sans flan prétend avoir une boulangerie ». Car effectivement, le flan, moi c'est un souvenir d'enfance, c'est vraiment un de mes desserts
le vrai
préférés.
Flan pâtissier, hein, avec une pâte.
Avec une pâte, et d'ailleurs on l'entend à la découpe.
Non, c'est pas vous qui avez fait ça quand même.
Si, c'est moi qui ai fait ça.
C'est une blague, vous avez vu comme c'est beau.
Il est beau.
Il est superbe.
Il est super, mais j'ai pas pris la recette n'importe où. C'est-à-dire que quand on reçoit un champion du monde de pâté croûte et un meilleur ouvrier de France, on a quand même un petit challenge. Et dans les livres de fin d'année, un petit coup de cœur pâtissier. aux éditions Hachette Cuisine par le chef Aurélien Rivoire.
Ah, ça me dit quelque chose.
Itinéraire d'un chef pâtissier. Donc Aurélien Rivoire est le jeune chef pâtissier qui accompagne Yannick Aleno au pavillon Le Doyen à Paris.
C'est ça.
3 étoiles au Michelin quand même.
Oui.
Et dans son livre, il y a notamment la première partie avec tous ses desserts d'enfance qui sont faisables à la maison. Alors autant la troisième partie, on est sur des desserts de pâtissiers de restaurant qui sont vraiment très complexes. Autant la première partie et même la deuxième, on peut se lancer à la maison.
Et c'est ce que vous avez fait.
Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait pour montrer aussi le parallèle.
Qu'est-ce que c'est beau, je suis sidéré.
Le parallèle avec le pâté croûte, car flan pâtissier dit pâte feuilletée. Et une pâte feuilletée, c'est long à faire. C'est pas compliqué, mais ça demande effectivement un petit peu de temps parce que il faut des temps de pause. Donc une pâte feuilletée, c'est quoi? C'est un mélange de farine, de sel et d'eau. On crée une première pâte. À côté de ça, on prend du beurre qu'on mélange avec de la farine. On crée ce qu'on appelle un beurre manié. On laisse reposer tout ça. Et ensuite, on va faire le... Enfin, vous avez des très bons tutos sur Internet. C'est-à-dire
mais
que...
Mais c'est vous qui avez fait cette pâte feuilletée, hein?
C'est moi qui ai fait la pâte feuilletée. J'ai commencé vendredi. J'avoue, ça fait très longtemps que j'avais pas fait de pâte feuilletée à la maison.
Elle a combien de tours?
Alors, elle a combien de tours?
Oui, parce que c'est ça le secret aussi, hein, d'une pâte feuilletée.
Ce qu'on appelle les tours, c'est qu'en fait, on emprisonne le beurre dans la farine ou la farine dans le beurre selon la méthode choisie. Ensuite, on étale des rectangles et on plie la pâte. On plie la pâte en deux, en trois, selon qu'on fait des tours doubles ou simples. Et donc, Aurélien Rivoire lui conseille de faire d'abord un tour double, tourner d'un quart de tour, donner un tour simple, laisser reposer 4 heures, recommencer l'opération. À nouveau, on laisse poser cette fois-ci 12 heures, on étale le feuilletage, on fonce un moule, on laisse reposer le moule foncé 2 heures au réfrigérateur. Et pendant ce temps-là, on prépare l'appareil. Donc un appareil à flan, c'est quoi? C'est des jaunes d'œufs, de la crème, du sucre, du lait, de la fécule de maïs. Et est-ce que vous trouverez l'ingrédient mystère qui apporte de la rondeur?
Oui, l'ingrédient mystère, c'est le beurre.
Ah non, l'ingrédient mystère dans cette recette de flan, c'est
autre chose.
Non. Beurre. Bah, non, il n'y a pas de beurre dans la
donc, crème,
dans l'appareil.
Crème, elle est, ok.
Voilà, en revanche, il y a de la bière.
Ah.
On le sent, ouais.
C'est-à-dire que Aurélien Rivoire utilise 200 grammes de bière blonde qu'il fait réduire aux 2/3, qu'il incorpore à l'appareil. Donc toute la recette est bien détaillée sur le site On va déguster.
C'est trop bon.
Non, franchement.
Moi, ça me rappelle. Excusez-moi, je parle à vous.
Johannes, le niveau technique est relevé aujourd'hui. Hein.
Moi, ça me rappelle la pâte à crêpes à la bière. On a ces parfums de levure derrière qui sont superbes.
C'est vrai, vous aimez ou pas, Arnaud Nicolas?
C'est très très bon. Moi, j'aime beaucoup aussi le. On retrouve le sucre qui apporte ce croustillant à la pâte.
C'est vrai.
La caramélisation qui est superbe.
La pâte croustille. Ouais.
Mais il faut effectivement qu'elle soit très froide et puis bien la cuire. Donc en fait, un flan, c'est comme les pâtés. Les pâtés en croûte, c'est pas si compliqué que ça. Oh. Il faut juste se laisser le temps, bien faire les choses. Donc effectivement, j'ai commencé ma recette vendredi pour dimanche matin.
Non, et franchement, je suis scotché. Je suis. Incroyable.
Je suis très contente du résultat. J'avoue, j'avais un peu peur du feuilletage parce que ça fait des années que je n'en avais pas fait. Ouais, et puis en y allant méthodiquement.
Jérôme.
Tranquille.
Oui, ça a de la gueule.
Non, mais c'est incroyable. Moi, vous venez. Quand est-ce que vous passez à la maison
Alors, quand est-ce que je passe à la maison? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous avez envie de croiser Aurélien Rivoire et de découvrir son livre et ce pâtissier absolument exceptionnel, il est cet après-midi à Paris au passage. Beau passage, 7e arrondissement,
oui.
À l'Alénothèque, de 15h à 19h, pour un goûter gourmand.
C'est ça, pour un goûter gourmand, c'était une très belle émission. Il y a même une petite chose que vous avez apportée pour faire plaisir à Jérôme Gagnès, cher Johan Lass, c'est la salade de pommes de terre.
Oui, exceptionnelle.
Une salade de pommes de terre...
Parce que vous êtes aussi traiteur.
Oui, on est surtout traiteur, même si on fait des pâtes et croûtes. Et la salade de pommes de terre, c'est un des classiques de la maison parmi tant d'autres choses.
C'est une pure merveille.
Vin blanc, échalote, voilà. Du vinaigre,
comme,
de l'huile.
Comme il dirait l'autre, j'ai rien inventé, c'est une recette de monsieur Paul Bocuse, donc voilà. si on suit bien pas à pas, ça peut pas être mauvais.
Ah, les pommes de terre sont délicieux. Fondantes, c'est une pure merveille.
Arnaud Nicolas, vous êtes à Paris, à Avenue de la Bourdonnais.
Tout à fait.
Vous êtes également dans le 8e arrondissement au Boudoir.
Exactement.
Et vous fournissez quand même pas mal d'adresses parisiennes.
Ben je fournis des restaurants d'Alain Ducasse sur des produits de charcuterie, en l'occurrence le restaurant Le Halard avec le pâté en croûte volaille qu'on vient de goûter.
Mm-hmm.
Le restaurant Le Champeau, Bibengus pour la terrine grand-mère.
Voilà. C'est ça. Mm-hmm. Est-ce que les pâtés en croûte sont saisonniers? Est-ce qu'ils ont une...
Oui.
Est-ce qu'ils se vendent? Est-ce qu'il y a une saison privilégiée pour manger du pâté en croûte ou est-ce que vous en vendez aussi en plein mois de juin?
Pour en manger, il n'y a pas de saison, mais pour la fabrication, il y a des saisons comme toute la cuisine.
Moi, je fais des pâtés en croûte qu'à base de légumes verts, en pleine saison de légumes verts, par exemple.
Attendez, pâté en croûte sans viande, quand même pas?
Pas tout à fait, mais presque.
Mais nous, on fait sans viande. On fait même des pâtes en croûte sucrées, tarte tatin gelée au calvados. Là, ouais. Après les fêtes, on va faire choco-praliné gelée cacao.
Pâté en croûte, précisons aussi que vous faites des pâtés en croûte sans porc.
Oui, oui, sans porc avec de la gélatine, autre que de la gélatine porcine.
Johan Lastre, pâté en croûte, votre formidable livre, recettes et techniques aux éditions Marabout. Ça, il y en a qui vont se lancer dans le challenge du pâté en croûte à la maison. C'était un immense bonheur de vous avoir. Arnaud Nicolas, idem. Le grand livre de la charcuterie aux éditions Alain Ducasse. C'est un très chouette livre qui va incontestablement devenir une référence. La semaine prochaine, on va déguster Mets le Cap sur Strasbourg. Le jeudi 13 décembre, nous serons en public au Cercle Metz de Strasbourg à 18h. Entrée libre à dimanche prochain si vous avez encore faim.